C'est un message biblique très sérieux. C'est une parole biblique très sérieuse. Et quand j'ai dit à ton voisin de lui dire, je t'ai dit de dire à ton voisin, ne retiens pas, tu as ri. Et pourtant c'est sérieux. Ne retiens pas. Ajoute-lui. Si tu retiens, tu te mets en danger. Ok, mais maintenant, dis ça, c'est ce que nous avons déjà vu. Maintenant, dis-lui, pour aujourd'hui, ne te retiens pas. Si tu te retiens, tu te mets en danger. Et pourtant, beaucoup se retiennent. Beaucoup se sont retenus. Vous allez voir que ce n'est pas se retenir par rapport à la colère, par rapport au mal que tu veux faire, par rapport. Se retenir à plusieurs formes. Celui qui se retient de faire le mal, il fait bien. Mais celui qui se retient de faire le bien, il fait mal. N'est-ce pas? Celui qui se retient de faire le bien, mais celui qui se retient de faire le mal, il fait bien. Mais celui qui se retient de faire le bien, il fait mal. Alors tu choisiras comment te retenir. Merci Jésus. Dimanche 8 juin. D'accord, c'est pas grave. Dimanche 8 juin 2025, message au culte de la borne Matadi. Thème, allons-y ensemble. Réjouis-toi stérile, combien? 16. On avance. Lecture, Ésaïe chapitre 54, les versets 1 et 2. Pendant que vous trouvez, nous lirons ensemble. Ésaïe combien? Le verset 1 et le verset 2. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux que le fils de celle qui est mariée. Tout cela, dit l'Éternel. Verset 2, tous ensemble à haute voix. Élargis l'espace de ta tente. Allons-y. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure à haute voix. Ne retiens pas. Allons-y. Allonge tes cordages et affermis tes pieux et nous disons amen. Nous voulons acclamer en applaudissant le Seigneur et sa parole. Aidez-moi à acclamer le Seigneur qui m'a fait parvenir sa parole et qui a transformé mon existence. Aidez-moi à acclamer le Seigneur qui a fait le chemin jusqu'à Mouerou et lui donner la vie qu'il lui a réservée. Aidez-moi à acclamer Jésus qui est allé à la croix afin de me créer la bonne nouvelle, l'évangile. Aidez-moi à acclamer Jésus qui n'a pas renié Mouerou et qui ne l'a pas abandonné en chemin. Béni sois-tu Seigneur. Merci Jésus, qu'un homme même m'aide à t'acclamer. Toi qui as pardonné Mouerou abondamment, tu ne l'as pas abandonné à mi-chemin. Tu ne l'as pas dédaigné. Tu ne l'as pas regardé comme quelque chose, une fourmi à écraser. Et pourtant, il était plus, moins qu'une fourmi, vase de terre. Et tu as décidé de mettre en lui de ton trésor. Et ton trésor n'élève pas que toi. Élève aussi, donne aussi de la valeur aux vases inutiles. Seigneur, comment t'aimer? Les mots me manquent, les larmes ont séché. Je n'ai plus d'actes convenables pour te démontrer mon amour. Tu peux lire au plus profond de moi, tu verras que je ne peux pas aimer quelque chose d'autre. Parce qu'en dehors de toi, tout est quelque chose. Toi seul es quelqu'un. En dehors de toi, tout est quelque chose. Merci mon Dieu. Bénis ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous l'avons déjà acclamé et nous l'avons déjà aimé. Et parce que la parole de Dieu, nous finirons jamais de l'acclamer et de nous émerveiller. À tout moment que vous en avez envie et vous en avez le désir et que vous êtes touché par elle, n'hésitez pas, même seul, à clamer. Même à la maison seule, vous avez lu une vérité biblique qui vous touche à clamer. À la maison seule, tu t'éclames, tu dis « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu là ?» Même à la maison seule. Merci Seigneur. Après avoir dit « Élargis l'espace de ta tente », ces phrases ici, vous les connaissez. Après avoir dit « Élargis l'espace de ta tente », que nous avons considéré comme une sorte de vision, « Élargis l'espace de ta tente », une vision donnée, et qu'on déploie les couvertures de ta demeure, la provision de cette vision divine. C'est à toi que j'ai dit d'élargir la tente, mais tu ne sauras pas le faire, tu n'en as pas les moyens. Je te donne des hommes qu'on déploie. Je te donne la provision pour que cette vision s'accomplisse. Après avoir dit l'un et l'autre, sinon l'une ou l'autre des choses, après avoir dit « Élargis l'espace de ta tente », une sorte de vision, et qu'on déploie les couvertures de ta demeure, la provision de cette vision, Dieu ajouta, ne retiens pas. Je t'ai montré des choses que tu vas devenir. Je t'ai donné les moyens d'en devenir. Pour les devenir. Alors, je ne vois pas la raison pour laquelle tu retiendrais. Alors, je ne vois pas la chose que tu retiendrais. Si tu retiens la vision, elle ne t'appartient pas. Si tu retiens la provision, elle ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui soit venu de toi que tu veux retenir. Ne retiens pas. C'est à moi. Si il y a à payer cher, c'est moi qui payerai cher. Ah, merveilleux Jésus. Ce n'est pas ta somme. Alors ne calcule pas la dépense. Le propriétaire dit dépense et ce n'est pas toi qui retiendrais. Est-ce que je parle à des hommes? Tout a été donné, tout tu as reçu. Mais tu retiens ce qui n'est pas à toi. Je n'ai pas prévu tout ça. Quelqu'un est ici, détenteur de tout ce qui lui est venu de Dieu, mais qui retient à outrance. À tous les niveaux. Tu retiens trop. Et nous ne l'avons pas vu le dimanche passé. Aujourd'hui, si Dieu nous permet d'arriver là-bas, nous allons voir que Dieu ne va pas à un moment donné supporter, il se met en colère. C'est ma somme et c'est ma maison que je vais construire. Tu n'es qu'un ouvrier. Alors ne retiens pas, ne calcule pas les dépenses, ne dis pas c'est assez, c'est trop, ce n'est pas à toi. Est-ce que tu sais que ce que tu as n'est pas à toi? Est-ce que tu sais que ce que tu as n'est pas à toi? Merci Seigneur. Ne retiens pas. Le dimanche passé, le Seigneur l'avait solennellement commandé à l'Église, ne retenez pas. Et ce matin, il les reprend aux oreilles de chacun de nous, en ajoutant, ne vous retenez pas. Il ajoute une autre dimension. Le même verbe, mais une autre dimension. Est-ce que les francophones sont ici? Le même verbe. Quand tu dis ne retiens pas, ça dit une chose. Tu dois ajouter une chose. Mais quand tu dis ne te retenir, quand tu parles de retenir, il faut que quelque chose s'ajoute. Mais quand tu parles de se retenir, ça dit tout. Ça peut s'arrêter là-bas. Ainsi, retenir concerne le bien. Et se retenir concerne les personnes. Nous avons parlé des biens que nous retenons les semaines passées. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes, des personnes, de toi et de moi. Tu te retiens trop. De telle sorte que tu n'as jamais vu L'exploit avec Dieu, tu ne peux pas faire l'exploit avec Dieu parce que tu te retiens trop, peureux, incapable de faire un premier pas. Tu marches sur les plates-bandes, sur les chemins, les routes, sur les voies que les autres ont tracées. Tous ceux qui ont tracé les chemins ont été des hommes courageux et les autres y marchent. Qui veux-tu voir tracer les chemins avant que tu n'y marches? Et ceux qui attendent que tu traces le chemin pour qu'il y marche, que deviendront-ils? Parce que chacun marche dans une tranche, dans un tronçon, des chemins tracés par quelqu'un d'autre. Mais là où tu t'arrêtes, là où l'autre a le chemin qu'il a tracé, là où ça s'arrête, ça montre que si tu t'arrêtes là, ne t'arrête pas. Ça montre que la partie qui suit là, c'est toi qui dois compléter à tracer ce tronçon-là pour que quelqu'un d'autre vienne. Trop souvent, dans notre culture, nous nous arrêtons juste à la fin du tronçon tracé par un homme. Et c'est pourquoi vous voyez qu'aucune entreprise congolaise, commencée par un homme, n'a traversé la deuxième génération. Parce qu'on marche juste sur le tronçon tracé par le père et on s'arrête là. Et quand tu t'arrêtes quelque part, il n'y a plus où aller. On vend tout. Votre père était de quelle nature pour faire un tronçon qui n'existait pas? Tu es de quelle nature pour ne pas compléter son tronçon, un autre tronçon? Ne retiens pas. Le dimanche passé, le Seigneur l'avait solennellement commandé à l'Église. Ne retenez pas tout ce que Dieu met entre nos mains. Quand il en a besoin, ne retiens pas. Ne retenons pas. À un moment donné, notre groupe avait posé un problème sérieux. Et l'Église n'avait pas, dans notre caisse centrale, n'avait pas de moyens. En banque, pas grand-chose. Et il y avait d'autres dépenses. Et moi, le Seigneur m'a béni, j'ai fait petites économies pour les enfants. Mais maintenant, vous êtes là, le groupe doit coûter 15 000, 10 000 dollars. À l'époque, ça fait très longtemps, aujourd'hui, ça serait l'équivalent de combien? Ça fait dans les 10 ans. Et Dieu dit, ne retiens pas. Je dis, je veux acheter ce groupe. Pourquoi je demanderai à l'Église d'acheter, alors que moi aussi, je fais partie de l'Église? De ne pas vous retenir. Outre mesure, de façon exagérée, la peur à tout moment, n'ai jamais osé, n'ai jamais essayé, n'ai jamais commencé. Il faut que quelqu'un ait commencé avant que je ne marche. Il faut que quelqu'un ait fait des preuves là-bas avant que je ne le suive. Il faut que quelqu'un ait passé par là, soit passé par là, pour que je puisse y passer. Il faut que quelqu'un ait d'abord essayé. S'il échoue, c'est lui. S'il a réussi, je peux essayer ce qu'il a fait. Quand est-ce que tu seras devant pour commencer? Être le précurseur et être le pionnier. Aussi seras-tu et resteras-tu toujours un suiveur, Malandangulu. Parce que toi, personne ne peut te suivre. Tu n'es pas capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Tu te retiens trop. Tu es le premier à critiquer ceux qui échouent. Celui qui échoue est un homme courageux. Vous n'avez pas bien acclamé, je vous assure. Celui qui échoue est un homme courageux. Vaut mieux celui qui essaye et qui échoue que celui qui n'essaye même pas. Tu n'as jamais échoué parce que tu n'as jamais essayé. Tu n'as jamais échoué et pourtant tu es au même endroit. Celui qui n'échoue jamais, il avance, non? Pourquoi tu n'avances pas? Parce que ton manque d'échec est synonyme de ton manque d'action. Donc, tu ne peux pas aller de l'avant sans action. C'est pourquoi tu n'as jamais échoué. L'homme qui échoue, la femme qui échoue pour avoir essayé, elle dit, oh oui, je vois maintenant, waouh, je vois pourquoi j'avais échoué là-bas. D'accord, je vais encore recommencer. Et tu recommences. Et tu échoues, et tu recommences. Et tu échoues, et tu recommences. Tous les échecs que tu as eu dans le passé vont devenir une véritable science pour toi. Après, quand tu mettras le nouveau pas, la victoire qui viendra fera entendre ton nom dans le monde entier. Tu te retiens trop. Tu es trop heureux. Nous disions le dimanche dernier, retenez, nous disions le dimanche dernier que le verbe retenir, nous disions le dimanche dernier que le verbe retenir a une autre dimension pronominale. Vous comprenez? Nous disions le dimanche dernier que le verbe retenir a une autre dimension pronominale, c'est retenir, qui consiste non à retenir quelque chose, mais à se retenir soi-même. Le verbe retenir et le verbe se retenir. Le verbe retenir consiste des choses qu'un homme peut garder, retenir à outrance. Mais le verbe se retenir ne concerne pas le bien, concerne la personne elle-même qui se retient. Peur d'embrasser tel travail, peur d'embrasser telle relation, peur, je serai déçu, je serai ceci. Mais écoute, dans chaque relation, il y a un risque. Dans chaque relation, il y a un risque. Dans chaque travail, dans chaque contrat, dans chaque association, il y a un risque. Et ce sont ceux qui risquent qui tirent les épingles du jeu, qui s'en sortent. Dans chaque œuvre, dans le ministère, pour commencer, laisser, abandonner, Dieu m'a appelé, il y a du risque. Pour commencer une église, il y a du risque. Commencer une entreprise, il y a du risque. Il y a le risque dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions réserver une part de la dose, de l'aspect, d'une poche dans ce que nous faisons, qui échappe à notre intelligence, à notre compétence, afin que nous puissions réserver cette partie-là à la foi qui donne gloire à Dieu dans notre vie. Si nous maîtrisons tout, Dieu n'est pas d'accord. Il aimerait que quelque part, quelque chose nous échappe, une donnée nous échappe, afin que Dieu y trouve sa part. Lorsque nous dirons, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Mais là, Seigneur, je t'en supplie, soutiens-moi. Là, il aura de la place. Il y a du risque en tout. Du risque à épouser une femme, du risque à épouser un homme. Il a grandi, il a vécu, je ne sais pas comment, d'où, et d'où il vient. Mais un jour, on se rencontre, il est à la maison de Dieu, je le vois, il est beau, elle est belle, elle aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Je pense que, mais entre-temps, tu ne sais pas tout ce qu'il y a derrière. Alors, ce n'est pas à cause du risque que tu dois te retenir, te retenir, te retenir, te retenir, te retenir, te retenir, et tu vieillis. Que le Congo s'améliore d'abord. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Je veux ce matin parler avec les hommes de risque. Et je sais que ces hommes et les femmes de risque, demain parmi vous, c'est parmi vous que sortiront les héros. Et les héroïnes, il n'y a pas de héros sans risque. Ceux qui vont risquer, ceux à qui je veux parler, des hommes et des femmes capables de faire le discernement des choses, mais aussi capables d'exercer la foi. La foi, c'est un risque. Je ne sais pas où je veux, mais je sais que je veux quelque part. Ce sont ces hommes et des femmes parmi lesquels il y aura des patrons demain. Car tous ceux qui sont des patrons ont risqué au commencement. Je sais que demain, des entreprises vont naître à gogo. Parce que des hommes vont se dire non, j'ai trop hésité. Nous disions donc le dimanche dernier que le verbe retenir a une autre dimension pronominale, c'est retenir, qui consiste... Se retenir qui consiste non à retenir quelque chose, mais à se retenir soi-même. Ainsi, en son temps, malgré le fait que, notez bien, ainsi en son temps, malgré le fait qu'il avait déjà bien reçu la vision de Dieu. Malgré le fait qu'il avait déjà reçu, qu'il avait déjà bien reçu la vision de Dieu et sa provision, Moïse dit à l'Éternel, envoie qui tu voudras. Envoie qui tu voudras envoyer. Il dit à l'Éternel, envoie qui tu voudras envoyer. Après quoi? Après avoir reçu la vision et la provision. Quelle vision avait-il reçue? Moïse avait reçu la vision. Ne t'approche pas de ces buissons ardents. Tu veux voir qu'est-ce qu'il y a, ne t'approche pas. Enlève le soulier qui est à tes pieds. Car ce lieu est saint. Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Et comme je délivre au travers des hommes, peu importe cet homme soit peureux ou pas, je délivre par des hommes. Est-ce que vous m'entendez? Votre famille n'a pas un autre délivreur, n'a pas un autre libérateur que vous. Alors, inutile d'aller avec la peur. Lève la main si la famille dépend de toi. Alors, à partir de maintenant, bannis la peur, bannis la crainte, bannis. Dieu passera par là. Moïse était un peureux. Il a essayé une fois et il a échoué et il a été jugé mal et il a fui. Mais maintenant, rentre là où tu avais fui, où on te cherche. On avait lancé un mandat d'arrêt international. Celui qui rencontrera Moïse, n'importe qui, n'importe où, et qui l'amènera, Pharaon lui donnera 5 millions de dollars. Je suis recherché. Et tu veux m'amener là-bas? As-tu tué Pharaon? Non. D'ailleurs, les pharaons ne meurent pas tous. Un pharaon meurt, un autre pharaon est à place. Le roi est mort, vive le roi. Les pharaons, ils se donnent les histoires, ils connaissent. Même celui que j'ai laissé sur place là, il est encore là, il n'est pas mort. Et que je rentre là-bas. Peur! Alors, il cache la peur derrière maintenant la provision. Ok. Tu veux que j'aille là-bas? Oui, d'accord, ok. Mais je vais t'avoir quelque part. J'irai là-bas. Et ils me demanderont, le Dieu d'Israël t'a appelé. Il s'appelle qui? Je dis, ok, ça va, c'est pas grave. Tu vas leur dire que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est là mon nom, depuis toujours. Mais je n'étais pas encore connu sous ce nom-là. Même Abraham, ton père, qui était courageux, plus que toi, il n'avait pas connu ce nom. Même Isaac n'avait pas connu ce nom. Tu respectes Jacob. Il n'avait même pas connu ce nom. Et même Joseph qui vous a amené à l'Égypte là, il ne connaît pas mon nom là. 400 ans, ils ne connaissent pas mon nom. C'est à toi, le tout premier, à qui je révèle le nom que je suis, c'est lui qui suit. Ah! Est-ce que tu sais que Dieu ne tiendra pas compte de ton niveau intellectuel, de ton background, je ne sais pas quoi d'autre, pour te révéler des choses? C'est toi qui t'exclus à cause de ta peur, mais Dieu ne te considère pas comme tu te considères. Gloire à Dieu de ce que Dieu ne nous considère pas comme nous nous considérons nous-mêmes. Si Dieu nous considérait comme on se considère soi-même, on ne pourrait rien faire avec Dieu. Dieu nous laisserait de côté. Mais Dieu, ce matin, va dire à certains hommes, quelle que soit ta peur, je ne change pas d'homme. Quelle que soit ta peur, je ne change pas. Quelle que soit ta faiblesse, je ne change pas mon choix. Je t'ai donné ma vision, délivrer Israël. Je t'ai donné ma provision. Je t'ai donné ma provision. Ainsi. En son temps, malgré le fait qu'il avait déjà bien reçu la vision de Dieu et sa provision, Moïse avait dit à l'Éternel, envoie qui tu voudras envoyer. À ce niveau-là, qu'est-ce que Moïse avait retenu? Il s'était retenu lui-même. Mais derrière ça, quand il dit envoie, quitte, Dieu n'envoie pas les biens matériels. Il envoie un homme. C'est toi Moïse. Mais quand il dit envoie qui tu voudras envoyer, ça veut dire que je ne pars pas, je me retiens moi. C'est lui qui se retient. Exode chapitre 4, le verset 13 et 14a. Exode chapitre 4, le verset 13 et 14, partie A. Moïse dit, Exode chapitre 4, le verset 13. Moïse dit, ah, vous êtes avec moi? Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Verset 14, tous ensemble. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, la suite là, c'est le verset qui continue. Moïse, je t'ai donné ma vision. Moïse, je t'ai donné ma vision de délivrer Israël. Moïse, je t'ai donné ma provision qui a commencé par mon nom que tes ancêtres n'ont pas connu. Moïse, je t'ai donné la provision. Ta propre verge sous tes yeux est devenue une verge miraculeuse. Je t'ai donné ma provision. Ce que tu vas déployer devant Israël et devant Pharaon. Moïse, je t'ai donné même mon propre nom, ma propre présence. Je t'ai donné mon nom, je t'ai donné la verge miraculeuse, je t'ai donné, la vision est la même, mais la provision multipliée. Vous savez que le nom de l'Éternel est suffisant en elle-même, en lui-même, est suffisant pour accomplir tout ce que l'Éternel veut faire. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous purifierez les lépreux, ressuscitez les morts. À mon nom, le nom de l'Éternel seul suffit. Mais Dieu lui donne le nom de l'Éternel, il lui donne la verge miraculeuse. Et il lui donne sa propre présence. Parce qu'après avoir donné tout ça, Moïse discute après. Il a vu toute la lèpre, la verge miraculeuse. Moïse discute encore. Je ne sais pas parler. Dieu ajoute, je serai moi-même avec toi. Malgré toutes ces provisions, Moïse arrive à dire à Dieu, ah Seigneur, cet homme qui parle à Seigneur, il a déjà la vision. Il a déjà une triple provision. Et à la fin de tout, il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Il fallait me dire ça avant. Je n'aurais pas transformé ta verge. Je ne t'aurais pas fait connaître mon nom. Il fallait me dire avant. Moïse, je t'ai donné ma vision de délivrer Israël. Je t'ai donné ma provision, le nom de Dieu, la verge miraculeuse et ma propre présence. Et toi, tu retiens et tu te retiens. Tu retiens toutes ces choses et tu te retiens toi-même en me demandant d'envoyer quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, les hommes et les femmes qui agissent comme Moïse, qui agissent et se retiennent de la sorte, sont très dangereux. En effet, ils prolongent souvent la douleur et le deuil de plusieurs. Ces hommes prolongent la durée de deuil, la durée de la douleur de plusieurs, ceux qui se retiennent. Même maintenant là, la souffrance que tu as là, quelqu'un quelque part est en train de se retenir. Toi, tu devais déjà être délivré. Israël est en train de pleurer. Moïse est en train de discuter au désert. Ayant la vision, ayant l'autorité, la puissance et la provision. Il est en train de discuter au désert. Et il est en train de refuser de se retenir. Pendant ce temps, il y a de ceux qui faisaient des briques, qui construisaient des maisons. Le Dieu d'Israël, quand est-ce qu'il viendra? Le Dieu d'Israël, quand est-ce qu'il viendra? Le Dieu d'Israël est déjà venu. C'est l'un de vous qui se retient. Et si je disais à quelqu'un que la délivrance de votre famille est déjà venue, C'est toi qui te retiens. La délivrance de ta maison est déjà venue. La visitation de ta famille est déjà venue. C'est toi qui te retiens. C'est toi qui as peur. Non seulement il se retient, mais il retient aussi toute la provision de Dieu. Il retient le nom de l'Éternel que lui seul connaît, que les autres doivent connaître. Il retient la vie, la verge miraculeuse. Il retient la présence de Dieu. Jusqu'à quand retiendras-tu? Te retiendras-tu alors que les autres souffrent quelque part? Jusqu'à quand te laisseras-tu? Peureux, te laisseras-tu? Effrayé, jusqu'à quand? Est-ce que Dieu ne t'a pas visité? Oui. Est-ce que Dieu ne t'a pas montré ce que tu dois faire? Oui. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné ce qui est nécessaire de faire, ce qu'il t'a demandé de faire? Oui. Est-ce que Dieu ne t'a pas révélé ce comment il sera avec toi? Oui. Et pourquoi tu souhaites, tu fais les surplaces? Des hommes comme ça sont dangereux. Et quand ça n'arrive à ce niveau, Dieu se fâche. La Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflammera contre quelqu'un qui se retient alors qu'autour de lui, plusieurs personnes sont en train d'attendre l'Éternel qui agisse alors que l'Éternel a déjà agi par toi et c'est toi qui es en train de tergiverser. Lève-toi, bouge! Lève-toi, bouge! Ne donne aucune raison. Je ne sais pas parler. Mais Dieu va dire à Moïse, tu ne sais pas parler? Mais déjà, comment tu me dis que tu ne sais pas parler? Si tu ne savais pas parler, je n'allais même pas, tu allais faire des signes. Mais tu me dis à moi, Dieu, que je ne sais pas parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni d'hier, ni de maintenant. Non, ça date de longtemps. C'est-à-dire que si je te comprends, c'est que tu sais parler. Bon, prenons que tu ne savais vraiment pas parler. Mais tu es devant celui qui fait qu'un homme parle, où un homme soit, mioué. Voilà comment Dieu va balayer toutes tes raisons que tu donnes là, parce que le Seigneur est capable de transformer tout ce qu'il y a comme infirmité chez toi. Aucune infirmité ne peut te barrer la route. Lève-toi, marche! Je n'ai pas étudié, Dieu peut te faire entrer à l'université spirituelle. Et tu sors sur la route comme si tu étais licencié. Je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Rien, parce que tout ce que tu manques là, Dieu est capable de le faire. Et puis, qui est l'homme avec quelle audace pour dire à Dieu que je ne suis pas capable de ça? Alors que c'est lui qui t'a appelé. Donc, tu veux dire à Dieu, tu as commis l'erreur. Tu t'es trompé. C'est lui qui te fausse, ce n'est pas moi. Qui es-tu pour dire à Dieu que tu t'es trompé? Quand Dieu vient chez toi, c'est qu'il a calculé tout à l'avance. Ayebinesiko Botama, dans quelles conditions tu as dormi où? Ça te fait la honte, mais lui, il sait. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu à toi. Parce qu'il sait que tu n'as rien que tu pourras faire valoir demain. Il ne va pas aller auprès de ceux qui ont déjà certains béquilles. Parce que s'ils marchent, ils diront « mes béquilles m'ont aidé ». Ils vont aller auprès de ceux qui n'ont rien. La Bible dit que Dieu a choisi parmi vous des choses folles, des choses faibles, des choses viles. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'un homme se donne la gloire. Si tu es incapable, alors tu es éligible. Si tu es dans la famille pauvre, alors c'est toi qui conviens. Si tu n'as pas étudié, alors c'est de toi qu'il s'agit. Si tu n'as pas de moyens, alors c'est toi qui conviens comme instrument de Dieu. Comme ça, demain, quand tu vas briller, tout le monde dira, voici un grand homme. Et toi tu diras, non, voici le grand Dieu. Quand tout le monde dira, voici un homme puissant, tu diras, non, regardez le Dieu de miséricorde. Je n'étais pas ce que je suis. Il m'a fabriqué sur toute la ligne. Dieu aime les choses viles, les choses faibles, les choses incapables, afin d'en faire capables et que personne ne se glorifie. Alors, ne trouve aucune raison pour te retenir. La maladie, Dieu l'ôte. Si la mort te menace, le Seigneur est celui qui fait qu'un homme vive ou un homme meurt. Si tu as des ennemis, le Seigneur est capable de transformer les ennemis en amis. Mais maintenant, dis-moi, quelle est la raison? Si tu manques l'argent, Dieu est le maître des temps, des circonstances, le maître de l'or et de l'argent. Dis-moi la raison que tu veux donner pour ne pas servir Dieu. Quelle raison? Homme, femme, jeune fille, jeune garçon, une église remplie du monde comme ça, 4500 enfants et adultes mélangés. Mais quand vous prenez les ouvriers, ceux qui sont actifs, les vrais, pas actifs de nom, vous n'y trouverez pas 500 personnes. Toute la grande masse est là comme ça. Je ne veux pas servir, je ne veux pas de problème, je ne veux pas. Quand tu commences à servir à l'église, c'est à ce moment-là que les démons veulent te voir. Les démons ne voient pas que les services. La première des choses que les démons ne veulent pas voir, ce n'est pas le service. La première des choses que les démons ne veulent pas voir, c'est la conversion. Comme tu t'es déjà converti, les démons te voient. Donc tu n'es pas obligé de te taire. Que tu te taises ou pas, tu es déjà ennemi des démons. Depuis que tu t'es converti, tu es obligé de te lever et servir. Je l'ai dit dimanche passé, une grande église comme cela, même spirituellement, une petite poignée qui soutient tout ça là. À la borne, nous, on n'est pas comme vous, hein, nous, on est vraiment organisés. Dans cette organisation, qu'est-ce qui est ta part dedans? Zéro. Tu te glorifies des efforts des autres. Sur le plan financier, toute l'église pèse sur une poignée de personnes. Toutes les dépenses de l'église pèsent sur une poignée de personnes. La plupart, les dîmes, offrandes, dons volontaires, collectes, ils ne donnent pas. Je suis juste là, je suis de la borne. Peureux. Calcul sur calcul. Et sur tes calculs, tu es, où est-ce que tes calculs t'ont amené? Mais des hommes qui ont avancé, et avec les calculs, et avec une partie sans calcul, regardez ce qu'ils sont devenus. Les hommes et les femmes qui agissent et se retiennent de la sorte sont dangereux. En effet, ils prolongent souvent la douleur et les deuils de plusieurs. Souvenez-vous d'Élisée. Élisée est notre, il est loin. Après Élie, c'est lui. Quand une femme est prête à mourir avec son enfant, Dieu se le dépêche là-bas. Si je dis que non, Élie, va chez une femme là-bas, elle va mourir bientôt. Va là-bas pour que tu puisses le nourrir. Tu vas dire, moi-même, le corbeau me nourrit. Et je vais aller le nourrir là-bas. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Alors, je te dis que j'ai ordonné à cette femme-là de te nourrir. Ah, là c'est bon. Oui, c'est moi qui ai faim, c'est elle qui a à manger. Mais tu arrives là-bas, tu trouves qu'ils n'ont que rien pour manger ces jours. Pour après quoi, ils meurent. Donc c'est toi qui es la provision qui est venue chez eux. Mais Dieu ne lui a pas dit, je t'ai ordonné, va nourrir là-bas. Non, il lui dit, toi, va qu'on te nourrisse. Mais en réalité, c'est eux que je vais sauver. En réalité, c'est eux que je vais sauver. Élisée vient après Élie. Et il a l'onction de Dieu. Le double, il l'a demandé. Il a le double de l'onction d'Élie. Et puis, il passe dans une maison, on lui donne à manger, on lui réserve une chambre. Il passe dans une maison chrétienne, papa est attaché au Seigneur, maman est attaché au Seigneur, mais ils n'ont pas d'enfants. On lui donne une chambre, l'homme de Dieu, cet homme de Dieu, on lui donne une chambre. Il passe, il repasse, il passe, mais ça commence à gêner. On nous traite bien, mais dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Parler ou non? C'est l'enfant qui leur manque. Ok, Seigneur, l'année prochaine, vous, les amis, mon Seigneur vous donnera un enfant. Quand je reviendrai, j'ai trouvé un enfant ici. Ah non, mais il ne faut pas dire comme ça. Nous sommes déjà habitués. On est bien. Laisse tomber ces histoires. Non, vous aurez un enfant. Et puis, ils ont eu un enfant. Et puis, l'enfant tombe malade. Il a grandi. Un moment, ma tête. L'enfant tombe et il meurt. La femme dit non. Moi, ces histoires de passion, je ne les connais pas. Ces histoires de douleur ici, je ne les connais pas. Je servais l'homme de Dieu, je n'avais pas demandé. Et lui-même dit, mon Dieu, ok, comme c'est son Dieu. Alors, le Dieu est le patron des morts et des vivants. Cet enfant, je ne le veux pas mort. Je pars voir l'homme de Dieu, mais non. Son mari dit, mais non, l'homme de Dieu, à cette heure ici, nous n'avons aucun problème. Mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, non, tout va bien. Tout va bien. L'enfant est mort. Non, pour moi, l'enfant là ne peut pas mourir. Je ne l'ai pas cherché. Il m'a été donné. Il ne mourra pas. Écoutez, quand la chose vous est venue de Dieu, elle a la garantie de Dieu. La chose, quand elle vous est venue de Dieu, C'est pourquoi ne fabriquez pas les enfants, ne fabriquez pas les mariages, ne fabriquez pas les ministères, ne fabriquez pas. Les jours que ça ne marche pas, tu vas aller où? Tu as fabriqué toi-même, débrouille-toi avec ton enfant que tu as fabriqué. Débrouille-toi avec ton mariage que tu as fabriqué. Débrouille-toi avec ton mari que tu as fabriqué. Débrouille-toi avec ta femme que tu as fabriqué. Débrouille-toi avec ton église et ton ministère que tu as fabriqué. Débrouille-toi. Et dis non. Je n'ai pas cherché. Je pars voir l'homme de Dieu. Elle court, elle voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la voit de lui et dit, « Oh, Géasi, cours vite. Cette femme ne doit avoir de problème. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle arrive là-bas et dit, « Homme de Dieu, je n'ai pas demandé. Mais c'est toi qui as dit, cet enfant-là, maintenant-là, je l'aime déjà. Quand j'étais sans enfant, je n'aimais pas. Mais maintenant qu'il est déjà, je l'aime. Alors, ce n'est pas le cas. Il ne peut pas mourir. Je suis venu, fais ce que tu dois faire, mais ce garçon ne doit pas mourir. » Écoutez l'homme de Dieu ce qu'il dit. Géasi, oui, prends mon bâton. Va avec mon bâton. Tu vas prendre le bâton, tu mets ça sur le visage de l'enfant. Et puis après, l'enfant va revivre. Madame, allez-y avec mon serviteur. Moi, tu ne me connais pas? Voilà des femmes qu'il faut dans la vie. Voilà des femmes qu'il faut dans la vie. Moi, allez avec ton serviteur. Avec ton bâton. Non. À ce moment ici, il n'est pas question du serviteur, il n'est pas question du bâton, il est question de toi-même. Géasi, la propriétaire de l'enfant reste, Géasi a couru avec le bâton. La propriétaire de l'enfant dit, moi je ne partirai pas, tu ne peux pas rester. Ah mais le bâton est allé, Géasi va le guérir. Non, nous allons. Et puis ils se sont mis en route, en train de les suivre. Arrivé là-bas, Géasi a couru et il est allé. L'enfant qui est mort est où? Le bâton du maître est ici. Il prend le bâton, il le met là-bas. Ah, mais ça c'est le bâton du maître. Ça c'est le bâton du maître. Il a dit qu'il met au visage. Il met. Ah, est-ce que j'ai oublié? Il tourne. Il met rien. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Le maître ne peut pas mentir. Le maître est un homme puissant. Oui, le maître est un homme puissant. Il y a des moments où Dieu dit ne retiens pas. Mais il y a d'autres moments où Dieu dit, ne te retiens pas. Il arrive des moments, Dieu te demande le bien, à un autre moment, Dieu te demande toi-même. Est-ce que tu m'entends? Il y a des moments, Dieu te demande l'argent, Dieu te demande une maison, Dieu te demande une voiture, Dieu te demande quelque chose. Mais il y a des moments, c'est toi-même que Dieu demande. Dieu ne t'a pas besoin de ton argent, c'est toi. Élisée, l'onction que tu as eue, ce n'est pas l'onction d'envoyer des bâtons, c'est l'onction de te déplacer et d'aller toi-même. L'onction que tu as eue, ce n'est pas l'onction des bâtons. Déplace-toi, vas-y. Et puis la femme a tenu son talent. Ils ont trouvé le jeune Géasi, le pauvre Géasi, mettant les bâtons. L'enfant ne bouge même pas. On le trouve là-bas, battu, tout ça là. L'enfant n'a pas tenu. Dit, okay. Quand Élisée vient, lisez bien le texte, il est long. Je ne peux pas vous donner, vous connaissez cette histoire. Deux rois, quatre je pense. Quand Géasi arrive, non. Quand Élisée arrive lui-même, il voit que le bâton n'a rien fait. Vous m'entendez, hein? Le bâton de l'homme de Dieu n'a rien fait. Parce que là, il ne s'agissait pas de retenir. Là, il s'agissait maintenant de se retenir. Le bâton n'a rien fait. L'homme de Dieu arrive. Il prend le bâton, il met. Non. Il prend maintenant lui-même. Il prend lui-même. L'enfant est étalé comme ça. La tête là. Les pieds ici. Et puis les mains étalées là-bas. Élisée vient au-dessus de l'enfant. Il s'étale. La tête, les mains sur les mains, les bras. Et puis, Géasi dit, ah! Mais ça, je ne connais pas ça. Tu donnes à Dieu des choses, c'est pourquoi tu as vu certaines choses. Mais le jour que tu te donneras toi-même à Dieu, tu verras une autre forme des choses. Tu donnes à Dieu des choses, c'est pourquoi tu vois un certain nombre de choses. Mais le jour que tu te donneras toi-même à Dieu, tu verras une autre dimension des choses. Tu donnes à Dieu des choses, c'est pourquoi tu vois un certain nombre de choses. Mais le jour que tu te donneras toi-même à Dieu, tu verras une autre dimension des choses. Maître, ça, tu ne m'avais pas dit. Il dit, mais moi, c'est maintenant que j'ai... Comme j'ai vu que le bâton a échoué, c'est pourquoi j'ai fait ça. Il étant là, la Bible dit, le nez du prophète au nez de l'enfant mort, les yeux du prophète aux yeux de l'enfant mort, la bouche du prophète à la bouche de l'enfant mort. Si tu étais venu avant, peut-être ça ne serait pas comme ça. Les pieds du prophète sur les pieds. Et puis la Bible dit, et le corps de l'enfant se réchauffa, et l'âme revint à lui. Et puis l'enfant éternua 7 fois. Et puis il le leva. Il vient avec et dit, maintenant, il n'a pas fait ça une fois. Il a fait ça 2 fois. Il s'est étalé comme ça, le corps se réchauffe. Mais l'enfant ne réveille pas. Il va dans la maison à gauche, à droite. Seigneur, cette maison m'accueillait bien, nous étions bien avec eux. Mais maintenant, il y a un deuil ici. Et c'est moi qui ai créé ce deuil. Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Mon bâton n'a rien fait. Je me suis étalé, ça n'a rien fait. Alors, je m'étale encore. Et il s'étale encore. Et puis l'enfant éternue. Et l'enfant ressuscite. Et puis il donne à sa maman. Quelle leçon! Quelle leçon pour l'église du Seigneur! Dans mon ministère et dans cette expérience que j'ai, la petite expérience que j'ai beaucoup entendu des hommes vous dire, « Pasteur, j'ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé de l'argent pour tout ce que nous devons faire là. J'enverrai l'argent, pasteur. Mais lui, à l'église, il n'est pas là. Dieu a besoin de toi ou il a besoin de ton argent? Mercredi, tu envoies l'argent. Nous avons la boîte de lettres là-bas. On met l'argent là-bas. Tu peux passer avec ta voiture. Vroom, tu t'arrêtes. Tu mets là-bas. Personne ne te voit. Tu pars. Dans ton cœur, tu es tranquille. J'ai donné l'argent à Dieu. Donc, Dieu est d'accord. De la même manière que le bâton d'Élisée n'a pas ressuscité l'enfant, ton argent sans toi ne nous est pas utile. Ton argent sans toi ne nous sera pas utile. Est-ce que tu m'entends? Marche dans les péchés comme tu veux. Marche dans les désordres comme tu veux. Mais pourvu que j'envoie de l'argent, ton argent ne fera pas grand-chose. Déplace-toi toi-même. Il est dit des Macédoniens, les Thessaloniciens en particulier. La Bible dit, après s'être donné eux-mêmes à Dieu, ils ont donné des biens à Dieu. Avant de donner à Dieu, donne-toi toi-même. Nous ne sommes pas ce genre d'église. Aujourd'hui, on veut l'argent des gens pourvu qu'ils donnent. De telle sorte que même les gens qui ne prient pas chez vous, vous donnez, qui ne prient même pas nulle part, des païens vrais, vous donnez de faire part et vous leur dites que Dieu vous donne, vous bénira. Dieu n'a pas besoin de leur argent. Dieu a besoin d'eux. Ne te retiens pas. Pasteur n'a besoin d'en pas cité. Ce que tu ne diras pas bon ici. Pasteur n'a besoin d'en être. Pasteur n'a besoin d'être compliqué quand il connaît ce bon dans l'église. Pasteur n'a besoin d'en être. Ce que tu ne diras pas ici. On peut qu'on a téléphone. Ah, nous n'avons pas bon là. Attends, mon yoté. Nous n'avons pas bon de côté. Quand tu as bon, et où mets la et où mets. Non. C'est ton bâton. Et si nous avons un mort à l'église, ton bâton ne fera rien. Nous avons besoin de toi-même. Mercredi. Vendredi, dimanche, c'est toi qui feras les affaires avec Dieu et non ton argent. Est-ce que vous m'entendez? Ne retenez pas ce que Dieu vous a donné et ne vous retenez pas vous-même. Vous vous attendiez à quoi? Vous attendiez que nous allions parler de quoi? Le verbe pronominal, ça s'est conjugué comme cela. Ils se sont retenus. Nous étions retenus. Nous nous retiendrons. On allait faire la grammaire. N'importe quoi. Peut-être Moïse s'est posé, s'est demandé, « Seigneur, ta colère envers moi est-elle justifiée ?» Dieu dirait, « Oui, ma colère est justifiée, car toi, Moïse, tu m'as déjà coûté cher depuis ton enfance. Combien d'enfants ont été jetés à l'eau, ont été tués avant de naître? Combien d'enfants ont été jetés, tués ? J'étais supporté, protégé, gardé. Combien d'enfants sont morts en Égypte pour que toi tu sois? Est-ce que tu as la capacité? Aujourd'hui tu dis, envoie qui tu voudras. Mais le jour où les enfants mourraient et que tu as survécu, pourquoi tu n'as pas dit, laisse survivre qui tu voudras? J'avais déjà semé en toi, je ne te lâche plus. C'est le cas de chacun d'entre vous ici. Vous venez d'où? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avant que tu ne sois conscient de ton existence? Vous venez d'où? Et c'est maintenant que tu vas dire à Dieu, envoie qui tu voudras. La musique est dans les besoins. Tu sais jouer la guitare. Tu sais manier ceci. Les services d'accueil. La technique a des problèmes sérieux. Tu es un grand technicien. Tu es un grand ceci ou cela. L'église a des problèmes d'implanter les églises. Tu as des comptes en banque fournis. Et tu te dis, envoie qui tu voudras. Je ne suis pas le seul à la bonne. La bonne, on est en gamote pour nous soutenir à Bangonios. N'importe quoi. Tu sais d'où tu viens. Tu sais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour que tu arrives là où tu es arrivé. Moïse, ma colère est justifiée. Moïse, ma colère est justifiable. Ce n'est pas maintenant. Tu as déjà ma provision. Tu as ma vision, ma provision. Jamais je n'ai donné une provision comme ça à un homme. Mais avant de te donner ça, souviens-toi, tu m'écoutes cher depuis très longtemps. Combien d'enfants étaient morts quand toi tu as échappé? Moïse, je ne l'ai pas fait comme cela jusqu'à cet âge, afin que tu me dises, envoie qui tu voudras. Vous êtes courageux des hommes et des femmes qui pensaient que si tu donnes $1 million à l'église, aux 20 missions églises, si tu savais d'où tu viens. Vous qui pensez que si je dois jouer à la guitare là-bas, c'est une faveur que je leur fais. Ce n'est pas une faveur que vous me faites. Vous êtes justement préservés par Dieu pour ça. Combien de vos amis sont morts? Combien? Pour que je te supplie pour venir servir. Combien? Pour que tu envoies de l'argent. J'enverrai mon bâton. Je dois supplier pour que quelqu'un se donne au ministère. Je dois supplier. Lukanga, s'il te plaît, donne ton ministère. Je dois supplier. Tu viens, tu sais d'où tu viens? Je parle de toi, mais derrière toi, tout le monde. Je serai là. Je ferai ce que je peux faire. J'enverrai mon bâton. Mais moi, non. Négligez ça. Dieu, jusque-là, il t'a parlé calmement. Depuis l'apparition dans les buissons ardents. Jusqu'au moment où tu as dit, envoie qui tu voudras. Toute la colère de sa protection de ta vie revient. Il se met en colère. C'est à moi que tu dis ça. Ta maman a reçu le salaire pour t'allaiter. Demande sur toute la terre si tu as déjà vu une femme qu'on paye pour allaiter son enfant. Il y en a sur toute la terre. Quelle femme a déjà été payée pour allaiter l'enfant? Ta maman a allaité, a été payée pour t'allaiter. C'est moi qui ai fait ça pour ces jours ici. Je suis dans une génération des hommes et des femmes qui oublient le passé, qui oublient partout ils sont passés et qui ne regardent qu'à leurs petits avantages sans savoir d'où ils viennent. Ils entendent ce que leur famille leur disent. Ils entendent ce que leurs amis leur disent. J'ai parlé à un autre frère, il me suit maintenant. Combien de fois je lui ai dit, Dieu t'a donné au ministère. Lui aussi dit, oui, Dieu m'a appelé au ministère. Mais il tergiverse. Il attend l'âge de la vieillesse pour venir se donner au Seigneur sans avoir l'énergie de partager la parole de Dieu. Parce que tu veux d'abord satisfaire les intérêts de ce monde. Homme, femme, si tu savais d'où tu viens, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et à ta génération, à ta naissance, à ta croissance, à ton enfance, combien sont morts? Et même maintenant, combien sont au chômage? Le travail que tu as, combien de Congolais l'ont? Et tu penses que c'est pour? Parce que, homme, femme, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, ne retiens ni ce que Dieu t'a donné, ni toi-même. Parce que, et toi, et ce que Dieu t'a donné, et moi, et ce que Dieu m'a donné, nous appartenons au Seigneur. Il a besoin de quelque chose de moi, je le lui donne. Il a besoin de moi, je me donne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis en colère, parce que tu m'as coûté cher depuis longtemps. Et vous, premier disciple, que j'ai béni, premier disciple qui avait expérimenté, vous avez marché avec moi, vous avez écouté, respiré avec moi, mangé avec moi physiquement. Premier disciple, je vous ai donné ma vision d'aller dans le monde entier et apporter mon témoignage et mon salut. Je vous ai donné ma provision, je vous ai donné mon esprit. La puissance du Saint-Esprit que tous ceux qui vous ont précédé n'avaient jamais connu, expérimenté. Joël n'en a parlé que pour le futur. Et lui-même n'a pas vécu. Quel est ce temps qui va venir où le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair? Pourquoi maintenant nous sommes saisis pendant un temps et puis c'est tout? Cela, l'esprit habitera en eux. Comment? Ce n'est pas votre temps. Et ce temps-là était pour vous. Et je l'ai accompli. Vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit et vous avez parlé en d'autres langues. Dans l'Ancien Testament, l'esprit saisit quelqu'un, il prophétise. Dans le Nouveau Testament, la première fois que quelqu'un saisit et il prophétise, mais il parle en d'autres langues. Du jamais vu. Et c'est toute cette vision d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et toute cette provision, la puissance du Saint-Esprit sur vous, était pour que vous accomplissiez la mission. Que faites-vous à Jérusalem concentré? Vous partagez le pain les uns les autres, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de nécessités, tout le monde vous êtes en paix. J'avais dit que vous vous arrêterez à Jérusalem. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin. Juifs, convertis, église, premiers disciples, vous êtes à Jérusalem, 5 000, 10 000, 20 000 déjà, et puis ça vous cause des problèmes, distrait dans le partage du pain, distrait dans le bien matériel, distrait dans ce que les uns et les autres doivent manger. Vous vendez vos champs, vous partagez le bien, c'est bon, mais ce n'est pas ça que je vous ai appelé. Le monde est en train de mourir. Vous deviez déjà partir, ce que vous attendiez vous a été donné 10 jours après. Je n'ai pas fait de calcul pour savoir, depuis que le Saint-Esprit était descendu, jusqu'au jour où il y a eu la persécution, il s'est passé combien d'années? Il s'est passé beaucoup de temps. La promesse du Seigneur, 10 jours après, elle arrive, mais eux, ils sont restés encore quelques années, entourés dans la communion fraternelle. À la borne matadi, on adore bien, je ne peux pas. Le Seigneur est capable de persécuter la ville de Matadi pour que chacun de vous, nous soyons dans des villages et partout, parce que nous ne voulons pas aller de nous-mêmes. Nous ne voulons contacter personne de nous-mêmes. Nous sommes tellement peureux. Nous voulons garder notre dignité parce que parler de Jésus-Christ, c'est honteux. Parce que c'est honteux pour un directeur, c'est honteux pour un militaire, enfant de Dieu, général, capitaine, et honteux pour quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, à quel niveau. C'est honteux pour un étudiant, c'est honteux pour une belle fille de parler de Jésus. C'est honteux. Et pourtant tu es converti de, tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Qu'en fais-tu? Non! Non! Tu te retiens trop, vous êtes trop retenu à Jérusalem. Alors, contre Moïse, je m'étais fâché. Mais contre vous, j'envoie la persécution. Contre Moïse, je m'étais fâché. Et contre vous, j'envoie la persécution. Alors, ils sont persécutés. Et puis, ils ne peuvent plus rester à Jérusalem. Les quelques disciples, 12 apôtres, se cachent dans les maisons et ils restent là. Ils ne bougent pas. Mais tous les 5 000, 10 000, combien qu'ils étaient là, ils oublient le pain, ils oublient le partage, ils oublient le bien matériel, ils oublient le confort. Et tout le monde sauve qui peut pour sauver sa vie. Mais partout ils partent, ils ne se rebellent pas contre Dieu. Ils parlent. Vous savez, le Seigneur est vivant. Mais tu viens d'où? Je viens de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus est puissant. Et puis, toi, vous avez un enfant malade? Oui, mais est-ce que tu peux prier? Nous avons entendu que... Non, mais tu vois que je suis en train de prier quand même. On prie comme ça. La guérison s'est faite. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mais tu as guéri, mais tu ne nous as pas délivré là-bas. Mais tu guéris ici. Et puis ils parlent en d'autres langues. Et ils partent, à gauche, à droite. Ce que Jésus a dit qu'il devait faire librement, ils l'ont fait avec un persécution. Reste là où tu es, avec la vision et la provision de Dieu. Reste tranquille dans ton travail. Reste dans ton confort, dans ton mariage. Reste dans ton confort avec tes enfants. Reste dans ton confort avec tes études. La persécution est capable de te faire faire ce que tu n'as pas fait volontairement. Tu te retiens trop. Pendant qu'ils se partagent le pain à Jérusalem, pendant qu'ils sont dans la communion à Jérusalem, pendant qu'ils se partagent les biens et toutes les nécessités sont secourues à Jérusalem, à Samarie, en Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre, les nécessités attendent l'onction du Saint-Esprit et les saluts. Ceux qui doivent l'amener sont où? À Jérusalem, en train de manger et de boire. Ceux qui doivent leur amener ça. Beaucoup de promesses attendent pour rien. Car la promesse est déjà accomplie. Mais l'homme qui doit venir comme instrument de Dieu se retient. La promesse de délivrer Israël est déjà là, Moïse se retient. La promesse d'envahir les nations avec l'évangile par la Pentecôte est déjà là, mais l'Église se retient. La promesse pour bouleverser la ville de Matadi est déjà là, mais les chrétiens de Matadi se retiennent. Ils ne peuvent pas parler de Jésus à quelqu'un. Ils sont trop intellectuels. Ils sont préoccupés à chercher l'argent. Ils sont très beaux, bien habillés. Ils ne peuvent pas parler de Jésus en veste. Vous allez subir quelque chose. Vous ne deviendrez pas païen, mais il vous forcera à aller accomplir la promesse de quelqu'un. Parce que c'est ton déplacement qui fera que la promesse de quelqu'un s'accomplisse. Moïse est allé et l'Église s'est déplacée. Et la promesse des uns et des autres s'était accomplie parce que les hommes se sont déplacés. Toi, tu as retenu quoi? Et tu te retiens pourquoi? Baissons nos têtes dans la prière.